VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ce matin, une édition spéciale consacrée à la crise politico-militaire au Burundi. Avec vous, Nathalie Barge et Anne Albertson.
De violents combats ont éclaté ce matin près de la radio et télévision d'État à Bujumbura, entre militaires loyalistes et putschistes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence ce matin sur la crise qui a pris une nouvelle tournure hier lorsque le général Godefroy Niambaré, ancien chef d'état-major et ex-chef du renseignement, a déclaré destituer le président Pierre Nkurunziza.
Il est institué un comité pour le rétablissement de la concorde nationale temporaire ayant pour mission d'initier un nouveau processus de gestion du pays, des institutions nationales et la reprise du processus électoral dans un climat apaisé et sain.
Un extrait de la déclaration du général Niambaré transmise par des radios privées.
Dans la soirée d'hier, s'en est suivie la liesse populaire dans la capitale burundaise où civils et militaires ont célébré l'annonce du renversement du chef de l'État qui était précisément à un sommet d'urgence à Dar es Salaam sur la crise dans son pays. Une crise provoquée par son intention de briguer un troisième mandat.
Après l'annonce du général, la présidence burundaise a publié un communiqué décrivant celle-ci de « déclaration fantaisiste de coup d'État », arguant qu'il s'agirait plutôt d'une tentative de coup d'État.
Toutefois, le président Pierre Nkurunziza n'avait pas été en mesure de regagner son pays hier à partir de la Tanzanie, la junte ayant fermé les aéroports et frontières du Burundi. Selon la BBC, il est retourné en Tanzanie, mais ses partisans disent qu'il serait rentré au Burundi.
Et dans la nuit, des tractations se sont tenues entre putschistes et militaires loyaux au président Nkurunziza, sans avoir abouti, semble-t-il. Avant de revenir sur le cas burundais, l'actualité dans le reste du monde.
L'opération Ville Morte s'est poursuivie mercredi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour une troisième journée consécutive, écoles et commerces sont restés fermés. C'est du moins ce qu'affirme Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beni, cité par l'AFP. D'après des témoins, l'opération Ville Morte, visant à protéger contre l'incapacité des autorités les civils des massacres des rebelles ADF, se serait même élargie à d'autres villes de la région, également frappées par les violences des insurgés ougandais. Les populations d'Oicha et de Butembo ont emboîté le pas à la contestation, a ajouté M. Kambalé. Pour parler de paix au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad devrait paraffer aujourd'hui l'accord d'Alger. C'est ce que confirme le gouvernement algérien. Hier, un responsable de la rébellion à dominante Touareg et une source de sécurité régionale indiquaient que des délégations des groupes de la CMA partaient mercredi à Alger pour paraffer en principe cet accord. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en Afrique dès aujourd'hui. Il doit se rendre au Niger et au Cameroun pour parler sécurité et migration, à l'heure où l'Europe cherche à stopper le trafic des passeurs en Méditerranée. Un séjour qui devrait durer jusqu'à vendredi, d'après l'AFP. La visite coïncide aussi avec une réunion des ministres de l'Intérieur du groupe des 5 du Sahel, créée en 2014 entre le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, pour leur permettre de coordonner leur politique de développement et de sécurité. Air France a annoncé la reprise de la desserte de Freetown, la capitale sierra-léonaise, à compter du 30 juin. Cette ligne était suspendue depuis plus de 8 mois en raison de l'épidémie de fièvre Ebola. Attentat en Égypte, 4 militaires et 3 civils ont été tués mercredi dans 2 attaques à la bombe dans la péninsule égyptienne du Sinaï, théâtre d'attentats djihadistes quasi quotidiens visant les forces de l'ordre. L'AFP, citant des responsables, précise que les explosions ont eu lieu à Rafah, près de la frontière avec la bande de Gaza palestinienne. Le président américain Barack Obama a salué mercredi les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Il a parlé d'une amitié extraordinaire qui remonte à l'ancien président Franklin Roosevelt il y a plus de 7 décennies. Le président Obama s'est exprimé à l'accueil du prince héritier saoudien Mohammed bin Nayef et de son adjoint, le prince héritier Mohammed bin Salman, présent à Washington dans le cadre du sommet avec les dirigeants des pays du Golfe. Ce sommet, qui a commencé hier par un dîner à la Maison-Blanche, se poursuit aujourd'hui à Camp David, dans le Maryland. Jean-Roger Bion.
Le président Obama a déclaré aux journalistes que les États-Unis et l'Arabie Saoudite continueront à renforcer leurs relations au cours de cette période très difficile. Avec les dirigeants arabes, il dit avoir discuté de la situation au Yémen et notamment le renforcement du cessez-le-feu dans ce pays. Pour le chef de l'exécutif américain, l'Arabie Saoudite est un pays clé dans la lutte contre le groupe militant État islamique en Irak, avouant au passage que sa collaboration avec le prince héritier Mohamed sur la lutte antiterroriste a été essentielle à non seulement le maintien de la stabilité dans la région, mais aussi à protéger le peuple américain. L'Arabie Saoudite a annoncé dimanche que le roi Salman ne participerait pas au sommet de deux jours. L'administration Obama a voulu dédramatiser la question, rejetant l'idée de camoufler de la part de l'Arabie Saoudite. Parmi les six pays du Conseil de coopération du Golfe, seuls les émirs du Qatar et du Koweït ont fait le déplacement de Washington. Bahreïn, Oman, les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite sont représentés par de hauts fonctionnaires.
Guerre en Syrie, les djihadistes du groupe État islamique ont pris au régime une grande partie d'Al-Soukna sur une route stratégique de la province de Homs, dans le centre du pays. Les combats ont fait 48 morts mercredi, rapporte l'AFP. En revanche, les forces gouvernementales et les combattants du Hezbollah libanais ont capturé le plus haut sommet du Kalamoun sur la chaîne montagneuse séparant le Liban de la Syrie, a affirmé une source syrienne sur le terrain. Enfin, dans le nord-ouest de l'Irak, Abu Ala Afalafari, le numéro 2 de l'organisation État islamique, a été visé par une frappe aérienne de la coalition internationale de l'Irak mercredi.
Washington, vous écoutez VOA Afrique pour un spécial Burundi. Incertitude à Bujumbura où l'ancien chef du service national des renseignements, le général Godefroy Niyombare, a annoncé hier la destitution du président Pierre Nkurunziza qui était en Tanzanie pour le sommet sur la crise burundaise, une crise provoquée par sa décision officielle de briguer un troisième mandat. De violents combats ont éclaté ce matin près de la radio et télévision d'État à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes. Dans sa déclaration mercredi, le général s'est dit président d'un comité pour le rétablissement de la concorde nationale ayant pour mission d'engager un nouveau processus de gestion du pays et de créer de nouvelles institutions. Pour faire le point sur la situation, j'ai joint ce matin notre confrère Édouard Madiricha de l'hebdomadaire Iwachu.
Les développements de la ville de Bujumbura sont difficiles à préciser ce matin parce que presque sur les radios privées, il n'y a qu'une seule radio, Isanganiro, qui essaie de passer quelques informations. La radio Bonesha ne passe que de la musique. La radio RPA qui avait rouvert hier, après l'annonce du coup d'État, ne diffuse plus. Et la radio nationale ne diffuse que de la musique. Donc, c'est comme si c'était presque une ville morte parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Les routes sont presque vides. Il n'y a pas de circulation, juste un ou deux vélos qui passent. Pas de moto, pas de voiture. On entend ici et là quelques coups de feu, mais on ne peut pas les situer parce que même la radio n'en parle pas.
Est-ce que vous savez si la radio nationale est prise par les putschistes ou non ?
Non, jusqu'ici, la radio nationale est toujours dans les mains des loyalistes. Parce que tout à l'heure, un commissaire, un certain Zenon, vient de parler sur Radio Isanganiro. Il a dit qu'ils n'ont pas encore pris la radio nationale parce qu'ils n'ont pas voulu, échanger des coups de feu entre militaires. Il dit que parmi les militaires qui gardent la radio nationale, il y en a qui font toujours, qui croient toujours en Pierre Nkurunziza, qui ne sont pas encore convaincus que Pierre Nkurunziza est un mauvais dirigeant. Mais il a dit qu'ils espèrent qu'ils finiront par les convaincre et qu'ils finiront par rejoindre leur mouvement. Mais jusqu'ici, la radio nationale est toujours dans les mains des militaires loyalistes.
Mais on parle de combats à l'arme lourde. Est-ce que les militaires et les putschistes sont nombreux à se battre ?
Je dois avouer que je ne peux pas donner d'informations précises sur ça, parce que je vous ai dit au début de cet entretien qu'on entend des coups de feu, mais on ne peut pas les situer parce que mais aucune radio n'en parle. Mais ça m'étonnerait que des militaires... des militaires se tirent entre eux, parce que même hier, quand ils ont fait une tentative de prendre la radio nationale, il n'y a pas eu tellement beaucoup de coups de feu. Jusqu'ici, on parlait de négociations entre les putschistes et les loyalistes, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des échanges de coups de feu entre les militaires.
Est-ce que l'on sait si ces négociations ont pu aboutir ou si elles ont échoué?
On parlait de ces négociations depuis hier dans l'après-midi. Je ne crois pas qu'elles aient abouti, parce que si elles avaient abouti, on aurait déjà eu une déclaration plutôt en communiqué sur la radio nationale ou bien sur les ondes des radios privées. Mais jusqu'ici, c'est le silence total. La radio nationale, hier, essayait de faire passer les messages des gens du gouvernement, des ministres, le ministre de l'Intérieur qui a parlé sur téléphone. On a entendu une déclaration des chargés du conseil principal du président Nkurunziza, chargé de la communication. Et tous ont déclaré hier sur la radio nationale que le coup d'État avait été déjoué. Mais aujourd'hui, personne n'a pas encore fait de déclaration de communiqué sur la radio nationale. Donc s'il y a des négociations, elles n'ont pas encore abouti. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, comme l'a dit le commissaire Zenon, qui fait partie du comité des putschistes, il a dit que les négociations sont toujours en cours.
Est-ce que l'on sait où se trouve le président Pierre Nkurunziza?
Alors, les informations disent certains le situent en Zambie, d'autres à Kampala, en Ouganda, mais il n'y a pas d'informations précises sur cela.
Édouard Madirisha de l'hebdomadaire Iwachu était joint à Bujumbura. Voici un portrait du général Niyombare dressé par notre confrère burundais Eric Manirakiza.
Il est Hutu, il est né à Kamenge, c'est au nord de Bujumbura, et il a fait le lycée du Saint-Esprit, c'est une école des jésuites à Bujumbura. Et après le lycée, il a rejoint le maquis et il faisait partie des négociateurs de l'accord de cesser le feu. Il est parmi les premiers qui sont arrivés à Bujumbura pour matérialiser les accords de cesser le feu et qui ont permis le retour de Pierre Nkurunziza du CNDD-FDD. C'est un jeune général de l'armée qui a été propulsé par justement l'accord d'Arusha. Il a occupé les fonctions de chef d'état-major général de l'armée. Il était même très apprécié par l'ancienne armée, les collègues. Et récemment, il a été démis de ses fonctions du chef des renseignements burundais après avoir quitté son poste d'ambassadeur à Nairobi, mais qui rebondit justement grâce à cette résistance populaire, donc qui joue en sa faveur.
Eric Manirakiza, joint dans l'État du Maine, ici aux États-Unis. Vous écoutez VOA Afrique pour une édition spéciale Burundi. L'annonce du renversement du président burundais a été condamnée par la communauté d'Afrique de l'Est. Par la voix de son président en exercice, Jakaya Kikwete, le chef de l'État tanzanien, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce jeudi des consultations d'urgence sur la crise au Burundi. Les ambassadeurs des 15 pays du Conseil entendront un exposé de la situation fait par vidéoconférence par l'émissaire de l'ONU au Burundi, Saïd Djinit, qui était en Tanzanie mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue, a déclaré mercredi son porte-parole. Nous continuons d'évaluer les développements sur le terrain car la situation est très changeante, a souligné Stéphane Dujarric, joint par VOA Afrique.
Le secrétaire général lance appel à toutes les parties politiques, à toutes les parties impliquées dans la situation au Burundi aujourd'hui, de rester calme et d'appeler au calme pour s'assurer que la paix et la stabilité se maintiennent dans ce pays qui a déjà tellement souffert dans les années précédentes. Nous sommes par définition contre tous ces coups d'État, tous ces changements de leadership par des moyens extra-constitutionnels. La situation sur le terrain reste très fluide. Notre envoyé spécial Saïd Djinit est en contact avec les différentes parties. Il était à Dar es Salaam.
Stéphane Dujarric, porte-parole de Ban Ki-moon. Cette nuit, le chef d'état-major Prime Niyongabo revendiquait le contrôle de la présidence et de la radio nationale, tandis que le porte-parole des putschistes, Venon Ndabanaze, disait que la junte contrôlait l'aéroport, selon l'AFP. Certains observateurs disent qu'un bras de fer s'opère entre divers généraux, loyalistes et pro-Niyombare. Mais le général putschiste a déclaré que la plupart étaient de son côté. L'opposition et la société civile burundaise, à l'origine des manifestations contre le troisième mandat présidentiel, se sont réjouis de la situation, toutefois encore incertaine. Voici la réaction de
Pierre Claver Mbonimpa, président de l'Association pour la protection des droits humains, la PRODE, dont l'arrestation récemment avait suscité une levée de boucliers. Il est joint par Chérubin Dorcil et il dit ne pas être étonné par l'action des militaires.
Je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Moi, j'avais entendu depuis que les militaires peuvent faire un coup d'État. Alors voilà, aujourd'hui, le coup d'État s'est déclenché. Ce que j'ai considéré, c'est que beaucoup de gens, la population a acclamé, même une foule nombreuse qui étaient dans les manifestations, ils ont chanté l'hymne national. Et franchement, on voit que tout le monde était très, très content. Et quoique, quand même, il y a quelques unités qui étaient pour le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, que vous voyez qu'ils étaient un peu fâchés. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé parce que ce que nous remercions, il n'y a pas eu de sang qui a été versé, il n'y a pas eu de violence. Sauf que maintenant, nous apprenons que la radio Emar FM, qui est la radio du parti CNDD-FDD, vient d'être fermée. Nous voyons que l'aéroport est maîtrisé, la radio nationale pas encore, c'est le problème qui reste. Mais dans l'ensemble, franchement, il n'y a aucun problème.
Vous avez beaucoup lutté pour la démocratie de votre pays, M. Mbonimpa. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir maintenant ?
Maintenant, c'est ce que je souhaiterais voir, c'est ce qu'on demandait depuis longtemps, le respect de la Constitution, le respect des accords d'Arusha, c'est tout qu'on réclamait.
Décidément, les élections ne pourront pas avoir lieu à la date prévue.
Les élections n'auront pas lieu, ce n'est pas possible, parce que vous savez même qu'on se lamentait beaucoup de comment les élections ont été préparées. Donc la composition de la Commission électorale nationale indépendante, je crois qu'il doit y avoir absolument une période transitoire.
Et quelle forme devrait prendre cette transition, selon vous ?
Bon, j'attends encore.
Pierre Claver Mbonimpa, président de l'Association pour la protection des droits humains au Burundi. Autre réaction, celle de Noël Nkurunziza, membre du FORSC, le Forum pour le renforcement de la société civile.
Tout ce qui s'est réalisé à Bujumbura, c'est un succès. Un succès d'abord parce que ce qui a été déclaré par la société civile par rapport à la candidature de Pierre Nkurunziza semble aller vers l'avant. C'est-à-dire que finalement, c'est tout le monde qui aura compris quand même que le premier mandat était pas conforme à la loi Bujumbura, jusqu'à ce qu'effectivement il y ait une réaction des forces armées. Dans toute situation qui finalement dérape, c'est eux qui sont appelés à gérer la situation. Donc, ils ont finalement songé à arrêter la situation avant qu'on arrive au grand drame, mais sinon le drame était déjà là.
Mais des coups d'État, il y en a déjà eu au Burundi. Quelles sont les assurances que vous avez comme quoi ceux qui viennent de faire ce coup d'État vont respecter leurs paroles?
C'est le grand défi, mais de toutes les façons, par rapport finalement à la maladie qu'il y avait, on dirait que le remède est déjà là, mais effectivement, il faut que la guérison soit effective. Et là, peut-être qu'on pourrait se prononcer après.
Est-ce que toutes les forces armées, la police et la gendarmerie se sont ralliées aux poutistes?
Alors où nous sommes, il y a certaines distances, on aura toujours vu les gardes présidentiels qui résistaient des heures et des heures, et c'est peut-être la même situation. Et nous espérons quand même que la situation va aller à la normale.
Noël Nkurunziza, membre du FORSC, le Forum pour le renforcement de la société civile. Vous écoutez VOA Afrique en direct de Washington pour une édition spéciale Burundi. Mais la réjouissance des uns fait aussi l'inquiétude des autres. Les États-Unis se sont dit profondément préoccupés par les développements actuels au Burundi. Dans un communiqué du département d'État, les États-Unis appellent toutes les parties à mettre fin immédiatement à la violence, à faire preuve de retenue et surtout à donner la priorité à la paix au Burundi. Les États-Unis disent soutenir l'appel lancé par les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est pour des élections démocratiques et pacifiques en accord avec les lois électorales du Burundi et l'esprit de l'accord d'Arusha. Washington exhorte toutes les parties prenantes à prendre des mesures adéquates pour créer les conditions nécessaires à des élections pacifiques en temps opportun, crédibles et transparentes, et à respecter l'état de droit, y compris les dispositions de la loi burundaise concernant un régime civil, précise le communiqué du département d'État américain. À présent, la réaction de Pacifique Ninina Zoué, un autre membre du Forum pour le renforcement de la société civile, joint par Nicolas Pineau.
D'abord, je salue le courage des citoyens du Burundi. En début d'après-midi, nous avons eu le discours du général Godefroy Niyombare qui disait que l'armée avait décidé de destituer le président Nkurunziza à cause de cette situation intenable et pour protéger la population. Donc, un discours qui, dans un premier temps, nous satisfait. Et ensuite, ils ont dit qu'ils veulent organiser un débat entre tous les acteurs créés. Alors maintenant, la situation est encore incertaine, ce n'est pas fini. De notre côté, nous restons engagés jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette situation soit résolue.
Un militaire qui prend le pouvoir à Bujumbura, l'histoire se répète.
C'est complètement différent de tout ce que nous avions vu auparavant. C'est la toute première fois qu'un militaire prend le pouvoir juste pour protéger la population en face d'une population qui réclamait ses droits. Alors, toute la question qui reste, c'est de savoir comment les militaires vont, à la fin, travailler avec les citoyens qui réclament leurs droits. Donc, pour nous, si le coup d'État s'affirme, ce sera tout à fait différent de tous les coups d'État qu'on avait vus dans le passé.
Qu'est-ce que vous dites à Pierre Nkurunziza ?
À Pierre Nkurunziza, moi je dis toujours, nous l'avons conseillé depuis plus de 2 ans, il faut qu'il évite de brûler ce pays qu'il a aimé, qu'il a porté si loin. Il devait lui-même donner un message de sérénité au peuple burundais, rassurer qu'il a abandonné ce projet qui est en train de détruire ce pays, qui est en train de nous remettre en arrière les avancées qu'on avait connues sur le processus de concédation de la paix.
Pacifique Ninenazoué, président du mouvement HALT au troisième mandat, joint à Bujumbura. Pouvait-on prévoir les événements du 13 mai au Burundi ? Idriss Fall a posé la question à Jean-Claude Kavumbagou, directeur de l'Express à Bujumbura.
C'était prévisible parce qu'on a toujours dit que le troisième mandat du président Nkurunziza est illégal. On a toujours dit, notamment de la part de la société civile et des partis de l'opposition, que dès que le président Nkurunziza annonce sa candidature, il y aura des manifestations dans la rue jusqu'à ce que il renonce à sa candidature. En d'autres termes, ce n'est pas une surprise pour moi. La surprise, c'est que quand même les choses ont pu nous tourner plus rapidement que je ne le croyais.
Et vous pensez que le général Niyombare va tenir parole? Parce que des coups d'État, il y en a eu plusieurs au Burundi.
Je me dis qu'il doit y avoir un encadrement quelque part, il doit y avoir une préparation quelque part. Apparemment, le coup d'État d'aujourd'hui, ce n'est pas une question parachutée. Et puis, je me dis qu'il doit y avoir une main invisible de la communauté internationale.
Apparemment, vous pensez que ça a été bien préparé?
Bon, disons que jusqu'à présent, il y avait tâtonnement. Parce que dans sa première déclaration, le nouveau président n'avait pas parlé de la fermeture de l'aéroport international, n'avait pas parlé de l'équipe qui compose son comité. Mais juste après, lors de l'ouverture de la radio publique africaine qui s'est passée effectivement cet après-midi, il a bien précisé que l'aéroport international est fermé. Il a précisé que les gens qui sont avec lui, ce qui a rassuré un peu les populations. En d'autres termes, même s'il n'a pas encore parlé sur la radio nationale et la télévision nationale.
Est-ce qu'on connaît quelques membres de ce nouveau comité militaire-là qui prend en charge les rênes du pays?
Il y a Cyril Ndahiru qui est ancien ministre de la Défense. Il y a Tim qui est chef d'état-major adjoint. Il a parlé de 4 noms, mais ce qui vient directement à l'esprit, c'est 2 personnes.
C'était Jean-Claude Kavumbagou, directeur de l'Express à Bujumbura. La crise politique au Burundi a empiré en avril avec un mouvement de contestation populaire contre l'intention de M. Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La Cour constitutionnelle a validé sa candidature malgré les protestations qui ont fait au moins 14 morts et quelques 200 blessés. Le général Niyombare, qui revendique la prise du pouvoir au Burundi, est un ancien compagnon d'armes du président Nkurunziza. Il est comme lui issu de la rébellion qu'était à l'époque le CNDD-FDD avant de devenir le parti au pouvoir au sortir de la guerre civile. Une analyse de la situation avec Elavine Doura, d'origine burundaise, enseignante à l'université George Mason.
Une déclaration ne veut pas dire que toutes les institutions sont bien organisées pour pouvoir relancer le pays qui a chuté il y a 3-4 semaines. J'attends, comme tout le monde, mais je m'attendais à un changement quelconque parce que la population n'est pas contente. On ne peut pas démontrer pour toujours.
Le coup d'État a été accueilli par une liesse populaire dans Bujumbura. Et la présidence a néanmoins dit que ce coup d'État était une plaisanterie. Mm-hmm. Si jamais il y avait de la résistance, craignez-vous qu'il y ait des grabuges sur le terrain?
Moi, j'espère que non, parce que le peuple burundi a suffisamment souffert. S'il faut y avoir un changement, même si le président Nkurunziza n'était pas prêt à négocier un changement paisible, j'espère que n'importe qui va pouvoir se réorganiser les institutions du pays pourra faire ça sans violence et paisiblement, d'une manière inclusive, ce qui est le problème au Burundi.
Alors, on se souvient qu'il y a eu une guerre civile dans le pays fondée sur les deux ethnies majoritaires du pays.
Right.
Est-ce que ce coup d'État ne pourrait pas faire craindre une résurgence de ces clivages?
Peut-être pas. Et je parle d'un grand espoir. Je pense que les problèmes burundais se sont compliqués. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes ethniques ont complètement disparu? Absolument pas. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est juste le problème ethnique qui inquiète la population burundaise ou la communauté internationale? Je ne pense pas. Il faut vraiment chercher à comprendre la complexité et la gravité des problèmes multiples qui compliquent la situation burundaise.
Alors, un coup d'État, c'est le scénario qu'on attendait le moins. Est-ce que vous pensez que l'armée peut remettre la démocratie sur les rails dans ce pays?
Moi, j'espère qu'ils vont être sages. Sages dans le sens de la sagesse burundaise et la sagesse africaine. Plutôt que vraiment de s'accaparer du pouvoir au premier temps, ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher avec le peuple, je suppose. Je pense bien. Parce que le peuple est fatigué. Et puis le peuple a de mauvaises mémoires des régimes militaires aussi. Les mémoires ne sont pas encore effacées. Le peuple burundi souffre encore des traumatismes du passé. Je pense qu'il faudrait peut-être utiliser ce moment comme une opportunité, une ouverture pour engager les Burundais de toute ethnie, de tout niveau, de tout genre et de tout âge dans un dialogue continu afin que les problèmes qui harcèlent le pays puissent être discutés paisiblement et sans violence et que les voix des Burundais puissent inspirer ce qui va se passer ensuite.
Lavin Doura, professeur à l'université George Mason en Virginie, était au micro de Jean-Roger Bion. Et pour l'analyste Thierry Vircoulon d'International Crisis Group, la réaction de l'armée burundaise n'est pas surprenante. Le voici au micro de Bagassikoura.
Il y avait plusieurs scénarios qui étaient envisageables en ce qui concerne la situation au Burundi. Un coup d'État de l'intérieur faisait partie des scénarios sur lesquels on travaillait, de même que le report des élections ou une plus grande explosion de violence ou un accord, une négociation entre le gouvernement et l'opposition. Mais ce coup d'État de l'intérieur reflète en fait les divisions très très sérieuses qui travaillaient à la fois le CNDD et aussi les forces de sécurité.
Et est-ce qu'il faut craindre justement des affrontements entre des camps rivaux, notamment au niveau des forces de sécurité?
C'est tout à fait possible dans l'état actuel. Bon, on ne sait pas exactement combien d'officiers se sont ralliés au général Niombaré, mais on sait qu'il y a eu des tirs qui ont été entendus du côté de la radio nationale et que la police est plutôt loyaliste et plutôt très proche du CNDD-FDD, alors que l'armée ne l'est pas tellement comme le montre le coup actuel. Donc pour le moment, c'est impossible de pouvoir dire à quel point l'institution de la police et l'institution militaire suivent le général Niombaré. Et par conséquent, en effet, la résistance d'éléments loyalistes est toujours possible et un contre-coup est aussi toujours possible.
Et est-ce qu'il faut craindre la résurgence des problèmes ethniques, notamment entre Hutu et Tutsi au Burundi?
Dans l'état actuel des choses, je ne le pense pas. Le général Niombaré est un officier supérieur qui vient des rangs du CNDD-FDD et qui est Hutu. Il est bien vu par les officiers Tutsi de l'armée burundaise. Et par conséquent, comme c'est un modéré, il est de nature à faire consensus entre Hutu et Tutsi au sein de l'institution militaire et plus largement.
Thierry Vircoulon d'International Crisis Group était joint à Nairobi. Et c'est la fin de notre édition spéciale Burundi, où de violents combats ont éclaté ce matin près de la radio et télévision d'État à Bujumbura. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence ce matin sur la crise qui a pris une nouvelle tournure hier lorsque le général Godefroy Niyombare a déclaré destituer le président Pierre Nkurunziza. À la mise en onde, c'était Anne Albertson et John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Très bonne journée.